Radio Suisse Romande, le Grand 8.
Faut-il être plus souple avec le plagiat? Les thèses universitaires à base de copier-coller, on vient d'en parler sur le pacte de 1291, sont en train de se multiplier. Ça devient quasiment une culture. Les professionnels le reconnaissent. Avec Internet, le plagiat est devenu un véritable fléau, pas facile à combattre. Michel Bergada, alors je le disais, vous avez été une des premières à tirer la sonnette d'alarme il y a plusieurs années, quelque chose comme 7 ans, je crois.
7 ans.
Ce qui fait de vous aujourd'hui une référence dans ce secteur, dans plusieurs pays. Quel est... Un chiffre peut-être d'abord, parce quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui, du plagiat? C'est quoi? C'est marginal, 1 sur 10, 1 sur 2, tous, on en est où?
Oui, enfin bon, le plagiat, il y a 7 ans dans les premières études que j'avais faites, il y avait déjà 3/4 des étudiants qui admettaient avoir fait du copier-coller dans leurs travaux et on est considéré qu'un travail normal devait comporter au minimum 25 à 30% de copier-coller d'Internet. Bon, ça, c'était il y a 7 ans.
C'est depuis, pas mal, hein.
Oui, c'est beaucoup. Mais c'est tous les... Je tiens à dire, toutes les disciplines, évidemment, sont touchées. Tous les pays, il y a pas... Il doit y avoir 130 universités qui contribuent à mon site responsable.unige.ch. Donc, il n'y a aucune différence. Et tout de suite, on ne cherche pas à dire non, c'est pas moi, ce sont les autres.
Ouais. Et d'ailleurs, ça ne touche pas que les étudiants, les profs aussi sont concernés.
Alors les profs aussi, évidemment. Il y a par exemple en France d'un certain nombre de collègues qui ont pris la suite, le relais, je dirais, comme il y a un article dans Le Monde d'il y a 2 jours. Et donc Jean-Noël Dard, par exemple, relève toutes les thèses qui sont plagiées dans son domaine, fait une analyse par les outils spécialisés, relève ses thèses, réussit à en faire annuler. Il y a des professeurs, il y a des cas permanents.
Il y a un tournant là qui se perd. On commence à annuler des thèses pour plagiat, c'est nouveau ça. Hein,
c'est nouveau. Ça le serait moins chez nous, je pense, mais dans la législation française, c'est interdit. Donc c'est tout à fait une première où on admet qu'effectivement on peut déterrer une thèse des années après puis l'annuler pour plagiat.
En fait,
donc ça, c'est un grand tournant.
En fait, vous avez mis les pieds dans un tabou.
J'ai mis les pieds dans un tabou, j'ai surtout, je m'en suis aperçue il y a 6 ans, c'est-à-dire c'était un non-dit, c'était un silence, c'était la maladie honteuse, il fallait surtout pas en parler nulle part, donc je me suis fait quelques ennemis au début, et puis les ennemis finalement ont déposé les armes, et même...
J'ai lu quelque part qu'il y avait des logiciels extrêmement performants aujourd'hui, qui permettaient vraiment de lutter efficacement contre le plagiat, vrai
ou pas vrai disons qu'ils sont nécessaires. Si vous avez une mutation de société à un moment donné, il est absolument nécessaire d'être capable de donner publiquement et des normes de comportement, des règles du jeu et des moyens de contrôle et ensuite évidemment des moyens de punition. Donc sans logiciel, on ne peut rien faire. Le fait d'en avoir un permet au moins d'éliminer les thèses ou les travaux ou les chapitres de livres le plus flagrant où effectivement la personne s'est contentée de faire du copier-coller.
Vous voulez réagir à ça, Dominique Terlewanger?
Moi, c'est une problématique à laquelle j'affronte dans mon métier d'enseignant. Il y a, effectivement une décomplexion aussi vis-à-vis du copier-coller
sur
Internet.
C'est facile, contre le C, contre le V,
très facile. Et puis en plus, on ne le voit pas que chez les enseignants, on le voit aussi dans certains articles ou même certains livres. Mais ce qui est important, là, je crois, c'est vraiment d'essayer de rendre attentifs les ados qu'il y a l'appareil critique, la manière de citer, qui est de ce point de vue-là, quelque chose d'essentiel. En partie, c'est ce gommage-là qui pose et qui fait le plus de dégâts. C'est de s'approprier, c'est du vol carabiné. Oui. Et ça, ils s'en rendent compte. Si vous leur expliquez que prendre... tel quel, la propriété intellectuelle, c'est un droit d'auteur.
Oui, voilà. C'est le problème, madame. Alors, quid du droit d'auteur là-dedans?
Alors, je voudrais replacer dans le contexte. Hein. Vous êtes historien, je voudrais quand même dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Nous avons tous vécu depuis 10 ans une révolution qui correspond à la révolution de l'imprimerie. Donc, c'est-à-dire que nous avons tous appris, et nous, les chercheurs les premiers, de nouvelles manières de créer de la connaissance. Nous avons actuellement 4 facteurs qui vont intervenir et il faudrait arrêter de dire c'est nous sommes dans une dialogie, il y a le bon, le mal, le copieur, le pas copieur. Ah. Les copieurs font partie de notre société et tout se réglera avec eux. Premièrement, la pipolisation. Vous avez tous les professeurs, tous les étudiants, tous les enseignants du secondaire, du collège, apprennent à faire de beaux documents où on a sa photo, où on a des images, où on va faire des produits qui sont bien les et donc on a ce problème de pipolisation qui est absolument terrible. Le deuxième, c'est évidemment la culture du web, qui n'est pas du tout chez les jeunes la même que nous. La culture du web, pour eux, c'est du partage. C'est du partage de connaissances. Ce qui est sur le web est gratuit, c'est à tout le monde, donc c'est à moi.
Je dois vous arrêter là, parce que là, ça, c'est ce que vous venez de dire là, c'est juste un point capital.
Il y en a d'autres, il y en a deux
autres. Je vous donne la parole pour les deux autres points dans un instant, mais juste là-dessus. Philippe Barrault, on est aujourd'hui dans une société de mise en réseau de l'information. Est-ce que le plagiat, c'est pas ça, juste l'incarnation de ça, au fond? Avant, d'un côté, on crée la connaissance, maintenant on la met en réseau, ça a aussi de la valeur, non?
Oui, disons que plagiat est clairement péjoratif, hein, ça a un côté, une notion
c'est de... C'est le voleur, c'est le flemmard.
Mise en réseau, mais il faut que l'auteur soit d'accord. Moi, je vois ça très modestement sur mon site. Oui. J'ai des lecteurs qui ont lu, qui aiment bien lire Eric Zemmour, ils me disent « Ah, regardez, il a écrit ça ouais. !» Ils m'envoient tout l'article, ils veulent que je le publie comme commentaire à un article.
Mais est-ce que ce n'est pas le but de Zemmour ou votre but d'être repris, d'être copié?
Mais en même temps, si moi je m'adresse au Figaro, je leur dis « Voyez, je veux reproduire tel article d'Eric Zemmour ouais. », ils me disent « D'accord, ça coûte 400 € pour 2 semaines. » Et là, le gars me le met gratuitement sur mon site. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, c'est un problème moral.
Michel Bergada, je vous laisse continuer votre explication de tout à l'heure.
C'est simple. C'est qu'effectivement, c'est les deux premiers facteurs actuellement de ce partage de connaissances, mais je ne sais pas quelle est la cause ou l'effet. On va produire des articles, on va produire des mémoires, des thèses à un rythme de plus en plus effrayant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase réelle ou supposée d'accélération de phénomènes. Si on regarde, et maintenant je reprends, ce que nous attendions de tout chercheur, de tout étudiant. Qu'il aille à la bibliothèque, se renseigne dans le silence des bibliothèques. Ensuite, qu'il fasse un plan, qu'il remplisse son plan, qu'il articule ses idées et qu'il remette un travail. Ce n'est plus du tout comme ça que l'on crée la connaissance. Maintenant, vous faites un plan avec des mots-clés, vous allez faire du copier-coller de chapitres ou de paragraphes ici et là sur le web, vous faites un travail de Lego.
Mais la démarche intellectuelle, c'est la même.
La démarche intellectuelle n'est plus la même. De la même manière que l'imprimerie nous a fait oublier que nous avions une mémoire, l'Internet nous fait oublier que nous savons lire, puis induire des connaissances. Maintenant, nous sommes en train de faire de la synthèse. Et ce que nous avons dans les travaux de mémoire, de thèse, de doctorat, mais également les travaux de professeurs, et également les articles, c'est un travail intellectuel radicalement différent.
Dominique Gerlevent.
Ouais, moi, je trouve l'analogie historique intéressante par rapport à l'introduction de l'imprimerie. Il y a un très joli livre de Karine Croza, qui est édité à Lausanne, qui montre combien Erasme, au XVIe siècle, s'inquiète du passage justement à l'imprimerie, parce qu'on ne va plus reconnaître l'écriture du scribe, et donc
le drame de l'imprimerie.
Exactement. On est dans les mêmes dynamiques. Comment on va faire pour reconnaître l'auteur d'un texte? Comment on va reconnaître que c'est bien sa parole et pas celle qu'il est en train de recopier de gauche et de droite? Et qu'est-ce qu'on a inventé? L'appareil critique dont je vous parlais avant. Donc maintenant, il y a effectivement une phase de transition. Il faut rendre attentif les étudiants sur le vol caractérisé du plagiat. Et à partir de là, aussi commencer à construire de nouveaux instruments. Vous avez parlé de ces logiciels. Nous, on les utilise notamment au gymnase sur les travaux de maturité. On a également la possibilité de mettre d'autres appareils critiques à l'intérieur du texte, que j'ai fait aussi d'ailleurs dans Telmi. J'ai essayé plusieurs fois de mettre les sources en fin de paragraphe au lieu de faire un appareil en fin de
sourçage, tout ça, évidemment. Michel Bergada, à part ça aujourd'hui, est-ce qu'on peut lutter efficacement contre ce phénomène-là? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt l'intégrer? Il y avait une analogie avec l'imprimerie avant, les gens avaient peur de l'imprimerie.
Alors, à l'université de Genève, quand même, je dis, j'étais présidente d'une commission éthique plagiat, et l'une des principales recommandations consistait à donner des cours aux étudiants qui rentrent à l'université, les deux premiers jours, des cours de ce que nous appelons compétences informationnelles. Parce que nous nous sommes aperçus, je suis désolée pour les collègues de collège, mais nous nous sommes aperçus que les étudiants ne savent pas ce que sont les compétences informationnelles, vont chercher n'importe quoi comme source sur le web, n'ont pas un esprit critique, non pas un esprit, ne savent pas ce qu'est le plagiat, donc nous les formons.
Est-ce qu'Internet tue l'esprit critique, Philippe Barrault?
Non, je pense pas, mais probablement qu'il incite à la paresse, ça c'est sûr, j'entends là. Et vous parliez d'une thèse, du plan. Moi, j'ai souvent l'impression que au fond, c'est les sources qui vont faire le plan de la thèse. Finalement, je vais trouver ici, j'ai trouvé ça, génial. Ouais. Ok, je vais orienter ma thèse dans ce sens-là. Donc là, effectivement, c'est de la compilation et c'est plus un travail intellectuel personnel.
Je vous remercie infiniment tous les quatre d'avoir été les invités du Grand 8 ce matin. Plagiat, donc en période en plus évidemment maintenant de remise de thèse, de doctorat, de travaux mémoire et de travaux de diplôme, évidemment que ça résonne pas mal dans l'actualité de ces jours. Merci beaucoup en tout cas à vous, Michel Bergala, d'avoir été avec nous ce matin, ainsi qu'à vous, Dominique Derlevanger, Georges André et Philippe Barrault. On vous retrouve sur le site internet que vous pouvez copier si vous le souhaitez, g8.rsr.ch, c'est le site du Grand 8. Bonne journée à toutes et à tous.